Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce samedi matin. C'est le printemps, les oiseaux chantent, les terrasses, les cinémas, les musées ont enfin réouvert et nous voilà bien garde ses missions, à savoir vous faciliter le quotidien. De 9h15 à 10h comme chaque samedi matin sur RTL, nous partageons avec vous plein d'infos, de conseils et de recettes. C'est parti pour le sommaire. Les paiements en ligne, c'est pratique et surtout depuis un an, mais gare aux fraudes et aux arnaques. Alors comment s'en prémunir et que faire si l'on en est victime? Vous allez être paré grâce à Armelle Lévy, journaliste au service Conso et Éco d'RTL. Vous avez un potager bio dans votre jardin ou sur votre balcon et vous vous demandez s'il peut vraiment être bio à 100%. Ne manquez pas notre séquence avec Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs qui a mené une enquête aux conclusions édifiantes. On ne sait jamais vraiment comment le cuisiner. Alors, comment se régaler avec du maïs? Eh bien, le chef Grégory Cohen vous dévoile ses meilleures recettes en fin d'émission. Ce sont des pirates, mais pas n'importe quel pirate. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service Eco et Conso d'RTL. Et chaque semaine, vous nous livrez des conseils vraiment qui font de nous des consommateurs avertis. Avec la crise sanitaire, on a plus que jamais recours aux paiements en ligne.
Et c'est vrai, l'année dernière, nous avons effectué 1,840 milliards de transactions en ligne, 6% de plus en un an. C'est du jamais vu pour atteindre les 112 milliards d'euros.
Et qui dit augmentation des paiements en ligne dit forcément augmentation des arnaques, Armelle.
Mais oui, il y a plus d'acheteurs et plus d'achats, donc les fraudes se multiplient et s'adaptent. Elles peuvent concerner chacun d'entre nous. Alors sachez qu'il y a trois manières de se faire voler sa carte bancaire. La première, c'est vous-même qui communiquez des informations au mauvais endroit. Vous recevez votre nouvelle carte bancaire, elle est très jolie, personnalisée, avec de belles images. Vous la prenez en photo et vous la postez sur les réseaux sociaux en disant « je suis trop content, ça arrive ». Et là, les pirates n'ont qu'à servir, on s'en rend compte trop tard.
Bah oui.
Et il y a tous ceux qui tombent dans le panneau des faux sites, des fausses boutiques en ligne. Vous donnez votre numéro à un site piégé.
Ouais.
Et complètement à l'autre bout du spectre, vous avez des commerçants en ligne qui, eux, se font pirater leur site web et tous les fichiers contenant les numéros de carte de leurs clients.
Et à quel type d'escroquerie assiste-t-on via le paiement en ligne alors?
Alors, depuis un an, c'est beaucoup lié au Covid. En ce moment, Jérôme Billois, expert en cybersécurité au cabinet Wavestone, envoie beaucoup à l'étranger pour les vaccins. Vous recevez une alerte, vous êtes éligible à la vaccination, cliquez ici. Il faut rentrer votre numéro de carte bancaire pour réserver le créneau et puis, plus rien du tout. Derrière, vous avez juste votre carte bancaire qui est piratée et une fois que les pirates ont votre numéro, ils peuvent l'utiliser pour faire des achats ou le revendre à d'autres cybercriminels sur des plateformes de marché noir. C'est un bel appât, l'appât Covid. Après, il y a toutes les fausses boutiques en ligne qui proposent des produits rares ou épuisés. On l'a vu l'année dernière avec les masques. Au début de la crise sanitaire, on ne trouvait pas de masques, il n'y en avait nulle part. Donc vous aviez plein de faux sites qui proposaient des masques FFP2. Les gens en commandaient, ils payaient avec leur numéro de carte bancaire, sauf que ces masques, ils ne les recevaient jamais. Et leur numéro de carte bancaire se retrouvait dans la nature, dans les mains de cybercriminels pour faire des opérations frauduleuses.
J'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus sophistiqué ces histoires-là.
C'est vrai, les fraudes sont de plus en plus astucieuses. Oui. Les équipes du site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr mettent en garde contre les arnaques au remboursement d'impôts ou au remboursement de la sécurité sociale. À chaque fois, on dit à l'internaute par mail ou par SMS sur votre téléphone, vous avez droit à un remboursement ou à 150 euros d'aide versée par les impôts. Ce remboursement vous parviendra sur votre compte bancaire sous 90 jours. Sauf si vous donnez votre numéro de carte bancaire, là vous serez crédité tout de suite. Et comme on a l'habitude maintenant d'être recrédité chez des commerçants directement sur notre carte, on tombe dans le panneau. Ils sont très malins, ces cybercriminels. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, quelqu'un a inventé son arnaque dans son coin, mais maintenant, il vend son arnaque à d'autres qui vont la perfectionner pour la rendre plus crédible. Donc le logo mal fait ou la faute d'orthographe, tout ça c'est fini, c'est corrigé dans la version suivante. Et celui qui menait son arnaque ne prend plus de risques. Derrière, ce sont des petites mains qui la mettent en œuvre.
Oh, dis donc, car ça appelle à une très grande vigilance de notre part.
Oui, mais comme l'analyse Maya Attig, c'est la directrice générale de la Fédération bancaire française, les fraudeurs jouent sur trois ressorts pour nous appâter. Il y a trois pièges à reconnaître. La peur, l'envie et la fibre solidaire, et c'est pour ça qu'on peut tous se faire avoir. La peur, c'est la peur de perdre de l'argent, de perdre un droit, il faut répondre avant demain, la peur de manquer une occasion. L'envie, c'est l'envie de réaliser une bonne affaire, l'affaire trop belle pour être vraie. Et enfin, la solidarité, vous pensez faire une bonne action, c'est le sentiment d'être utile. Donc quand on vous pousse à agir dans la précipitation, dans l'urgence, sans trop réfléchir, en jouant sur l'une de ces trois émotions, prudence, prudence.
Et comment est-ce qu'on vérifie l'authenticité d'un site ?
Alors là, c'est très compliqué car ils sont très bien faits. Tout est fait pour vous faire croire que c'est bien. Le faux site ressemble comme deux gouttes d'eau à un site de e-commerce avec des avis, le petit cadenas vert, tout ce qui va bien, quoi. Le site a une bonne tête. Donc vous mettez vos achats dans le panier, vous payez, vous donnez votre adresse et vous recevez un mail comme quoi la commande est bien passée. Mais vous ne recevez jamais rien, le site est une arnaque, mais une arnaque bien faite.
Oui, je comprends.
L'arnaque vaut pour tout. On l'a vu pour les masques, mais aussi pour des jouets, des sacs à main. Ces sites-là tapent assez large, ils récupèrent des dizaines de milliers d'articles. L'idée, c'est qu'à un moment donné, vous cherchez quelque chose, vous allez trouver le site, car ailleurs, ça n'existe plus, ou parfois, ils sont affichés à un prix imbattable. Il y a même la fiche descriptive du produit, mais en fait, ils l'ont volé sur d'autres sites.
Mais alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, ce que conseille Jérôme Billois, expert en cybersécurité, c'est de ne pas hésiter à retaper le nom du site dans un moteur de recherche en ajoutant arnaque ou fraude, escroquerie, pour voir la notoriété du site. Parce que souvent, ceux qui se sont déjà fait avoir vont aller sur un certain nombre de forums pour le dénoncer en disant « Attention, je suis allé sur ce site-là, il est crapuleux ». Et si vous ne trouvez rien sur le site, il faut être tout aussi méfiant. Parce que si le site a été créé hier de toutes pièces, il n'y a aucun avis, ni en bien ni en mal. C'est louche aussi.
Et pour les mails que l'on reçoit ?
Même chose, il faut être méfiant parce que le mail est très intrusif. Vous allez recevoir un message « Venez sur mon site, cliquez sur le lien » et il vous emmène sur un faux site marchand pour récupérer vos données bancaires à la fin de la commande. Donc le conseil, c'est de ne pas répondre en cliquant sur le lien du mail. Si vous recevez par exemple un mail alléchant « moins 70% au rayon beauté » sur un site que vous connaissez, vous ne répondez pas en cliquant sur le lien. Vous allez directement rechercher le site officiel de l'enseigne, vous arrivez sur la page, vous mettez votre identifiant et là, vous voyez si l'offre existe vraiment et si elle vous est bien destinée.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Armelle Lévy, parce qu'on va parler de l'authentification renforcée. C'est vrai que c'est des histoires un petit peu galères. Parfois, ça nous agace, mais en fait, ça n'est pas complètement inutile. Hein. C'est les histoires de SMS et de codes que l'on reçoit. Et puis, on verra effectivement comment cesser de se faire arnaquer, car vous l'avez dit, les arnaques sont nombreuses. On se retrouve dans un instant dans Nous voilà bien. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bienvenue sur RTL, nous sommes ensemble jusqu'à 10h en compagnie de nos invités. Benjamin Dourrier va nous parler de nos potagers, parce qu'on a tous envie de faire un potager bio, mais peut-il l'être réellement à 100%? Il nous racontera ça dans un instant. Dans mon potager, moi j'aurai du maïs et Grégory Cohen va me donner plein de recettes pour pouvoir le cuisiner. Mais pour l'heure, plus d'arnaques, paiement en ligne grâce à Armelle Lévy. Le piège que nous tendent les arnaqueurs, les paiements en ligne, grâce à Sylvie Vartan. Alors, j'essaie de faire une petite imitation, pardonnez-moi. Armelle Lévy, vous êtes avec nous. Et dites donc, on parle des arnaques de paiement en ligne. Armelle, l'authentification renforcée, ce sont ces fameux SMS que l'on reçoit où on nous demande des codes qu'il faut intégrer après à notre ordinateur sur le site. Enfin, ça nous énerve, mais en même temps, qu'est-ce que c'est utile ?
Oui, c'est une validation par téléphone de l'achat que vous êtes en train de faire. C'est le fameux SMS avec un code que vous recevez pour confirmer l'achat sur le site. C'est le système 3D Secure, parce qu'il y a trois dimensions. Il y a celui qui achète, il y a le vendeur et il y a la banque. Mais en réalité, c'est le site qui met ça en œuvre. Donc s'il décide de ne pas le faire, vous n'aurez jamais de code.
D'accord. Donc en fait, c'est quelque chose de bien. C'est galère, mais c'est quelque chose d'important.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Donc on va cesser de râler quand on reçoit nos codes par téléphone. Qu'est-ce que c'est fatigant, tous ces codes.
C'est une précaution supplémentaire.
Exactement. Un dispositif de sécurisation accru s'applique depuis une semaine. De quoi s'agit-il ?
Alors les banques ont 4 semaines pour l'appliquer. C'est une nouvelle directive européenne qui vaut pour les plateformes européennes pour des achats en ligne de plus de 30 euros. Vous devez télécharger l'application de votre banque. On vous demande de choisir un code et dès que vous allez payer en ligne, vous allez recevoir un message vous demandant de retourner dans votre application de la banque pour valider la transaction. Là, vous rentrez votre code secret ou votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour confirmer le paiement. Mais c'est là où se creuse le fossé du numérique. Le magazine 60 millions de consommateurs a reçu de nombreuses plaintes parce que cela ne marche pas sur les smartphones les plus anciens ou si vous n'avez pas de smartphone du tout. Pour y remédier, la banque peut vous envoyez un code sur votre vieux téléphone ou sur votre fixe, ou vous demandez d'acheter un boîtier 29€ pour valider les paiements depuis votre ordinateur. Donc c'est compliqué pour tous ceux qui n'ont pas de smartphone.
Non mais c'est vrai, en fait, ça devient de plus en plus complexe, avec des codes de plus en plus complexes, des sécurités de plus en plus galères. Et en fait, on a vraiment le sentiment d'être mené en permanence dans les affres de la sécurité. Ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on fait si on remarque un paiement suspect avec notre carte?
Alors, il faut immédiatement contacter la banque et faire opposition sur la carte. Mmh. Vous trouvez le numéro sur le site de la banque et derrière votre carte bancaire. Vous vérifiez bien toutes les transactions passées. Et c'est recommandé, mais pas obligatoire, vous pouvez porter plainte au commissariat.
Et les banques, elles nous remboursent systématiquement ?
Oui, la législation est quand même très protectrice. Vous êtes remboursé très rapidement, sauf en cas de négligence grave. Vous avez donné votre code à 4 chiffres, ou vous êtes fait avoir une fois sur un faux site et vous y retournez. Mmh. C'est de votre responsabilité. Oui. D'où l'intérêt de bien surveiller régulièrement son compte. Après, vous avez des services d'e-carte bancaire proposés par les banques. Elles vous transmettent un numéro de carte à chaque achat qui ne peut pas être utilisé deux fois. C'est un abonnement de 15€ par mois et la transaction est assurée. Si vous allez sur un faux site et que la commande n'arrive jamais, elle vous rembourse. Donc ça apporte une belle tranquillité d'esprit.
Sans payer un abonnement, comment est-ce qu'on protège les données de notre carte bancaire du coup ?
Alors déjà, ne pas la divulguer à tort et à travers en photo sur Internet ou par mail avec un gros titre numéro de carte bancaire. Et aussi, ce qu'on vous conseille, les experts du site cybermalveillance.gouv.fr, c'est de masquer les trois chiffres du cryptogramme qui est derrière votre carte bancaire, le CVV. Vous mettez un gros coup de marqueur dessus et ce petit numéro, vous l'apprenez par cœur.
Ah bah oui, remarque.
Pourquoi ? Parce que c'est déjà arrivé que des commerçants ou des serveurs indélicats à qui vous tendez la carte fassent une photo recto verso avant de vous la rendre. Et 15 jours après, vous avez des débits frauduleux parce qu'ils ont fait des achats avec et vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, vous masquez le trigramme.
D'accord.
Autre conseil, n'enregistrez jamais votre numéro de carte sur un site marchand, car quand le site est piraté, c'est votre numéro qui se retrouve dans la nature. Et enfin, dernier conseil, ne vous baladez jamais avec votre carte sans contact dans la poche arrière, dans le bus ou dans le métro, car avec un lecteur de carte sans contact, les escrocs peuvent récupérer vos données de votre carte sans contact.
Donc, grosse méfiance quand même. Hein.
Oui,
voilà.
On la laisse pas traîner.
Ah non, non, non. Et des arnaques auxquelles on ne pensait pas toujours. Grâce à vous, on les apprend. Merci beaucoup, Armelle Lévy, d'avoir accepté mon invitation. Vous avez un potager ?
Oui.
Oui, et il est bio ?
Oui.
Oui, enfin, vous n'êtes pas sûre ?
Ben non, je ne suis pas sûre.
Bon, écoutez-nous justement, parce que dans un instant, Benjamin Dourrier, de 60 millions de consommateurs, va nous parler de ça. Merci beaucoup.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
Après Sylvie Vartan, Jacques Dutronc, son truc qui fait crac-boum U. Bonjour Benjamin Dourrier.
Bonjour.
Bon, je ne vais pas vous demander si vous en avez un, vous, mais en tout cas, soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes rédacteur en chef adjoint.
J'en ai un.
De 60 millions de consommateurs. Un jardin ou un truc qui fait crac-boum U ?
Non, un jardin potager, bio, enfin j'essaye en tout cas.
Alors, mais c'est quoi justement un potager bio ?
Alors, un potager bio, j'allais dire, c'est un peu ce qui nous motive tous à essayer de faire pousser nous-mêmes nos fruits, nos légumes. Mmh. C'est de faire soi-même et de contrôler ce qu'on met dans le jardin, donc de ne pas y mettre de produits chimiques, en tous les cas, c'est ça la clé pour avoir du bio, même si c'est vrai qu'il faut reconnaître que les produits, les pesticides les plus problématiques, ils ne sont plus autorisés à la vente, en particulier depuis quelques années, mais ben, voilà, c'est le bio, c'est ça, c'est une paramètre de produits, pas mettre tout et n'importe quoi sur les plantes qu'on fait pousser.
Alors, si je veux acheter des graines de tomates ou de courgettes bio, par exemple, est-ce que ça prémunit mon potager des pesticides ?
Alors bon, les semences, c'est une question, mais c'est peut-être pas le problème principal. Ce qui compte, c'est aussi ce qu'on met pendant la culture ou pour la culture, les engrais, produits pour éloigner les petites bébêtes ou pour éloigner les champignons, pour combattre les champignons. C'est plutôt ce qu'on met dans la culture qui pose problème. Mais là, c'est vrai que ça suffit pas parce que les pesticides, ils peuvent aussi être sous forme de résidus dans la terre. Ils peuvent arriver par l'air, par les eaux d'écoulement. Hein, si vous avez un jardin qui est pas très loin d'une zone agricole avec des eaux qui s'écoulent boule vers votre jardin, ça peut amener des résidus, pas forcément en quantité énorme, mais effectivement, il faut prendre ça en compte. La terre n'est pas forcément saine dans tous les cas.
Alors d'accord, mais les pesticides sont les seules substances qui peuvent poser problème ?
Alors non, il y en a d'autres. Il y a un certain nombre de polluants qui peuvent être des polluants issus d'activités industrielles, les polluants liés à la circulation automobile. Donc là, on parle d'hydrocarbures, de dioxines. Il y a également des métaux lourds qui peuvent être aussi parfois d'origine naturelle. C'est vrai que parfois, il y a des métaux lourds qui sont dans la terre et qui sont liés au sous-sol, à la nature du sous-sol dans certaines régions.
Eh bien, dis donc, on va se retrouver dans un instant parce que moi, je me dis, finalement, la terre que j'achète dans le commerce pour mes balcons, est-ce que ça ne me permet pas, à un moment donné, d'avoir un potager bio ? Vous allez répondre à cette question puisque vous avez mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs et les résultats, effectivement, sont assez édifiants. Ensuite, on parlera maïs avec Grégory Cohen. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous savez faire des choses avec le maïs, vous ? Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'idées. Grégory Cohen sera là, justement, pour nous donner des recettes. Ce maïs, peut-être qu'il aura poussé dans notre jardin. Sait-on jamais ? Eh bien, justement, le potager, on en parle tout de suite avec Benjamin Dourier.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ?
J'ai des petits problèmes dans ma plantation.
Pourquoi ça pousse pas ?
Oh là 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 là, on se sent tranquille avec ce genre de musique. Hein. Benjamin Dourier, voilà, j'ai des petits problèmes dans ma plantation parce que j'aimerais bien que tout soit bio dans mon potager. Alors vous nous avez expliqué effectivement que les sources de pollution sont multiples. La terre que l'on achète dans le commerce pour nos balcons, vous savez, ces grands sacs de terre, est-ce que ça me garantit à un moment donné aussi de pouvoir avoir des légumes bio ?
Alors, en tout cas, c'est plus contrôlé. Il y a des normes pour les terreaux en vente dans le commerce qui limitent les résidus qu'on pourrait y trouver. Même si la norme qui existe, on a interrogé quelques spécialistes, la norme, elle n'est pas parfaite. Elle pourrait être améliorée. Mais globalement, effectivement, il n'y a pas trop de soucis avec ces produits achetés dans le commerce.
Mais une terre fertile, c'est forcément une terre saine ?
Alors malheureusement, pas systématiquement. Il peut y avoir des terres qui sont très fertiles, les légumes poussent très bien, mais avec des résidus de métaux lourds dans la terre. Si vous êtes sur, un ancien site industriel, effectivement, il peut y avoir des résidus dans la terre qui, parfois, n'empêchent pas les légumes de bien pousser.
Et quelles conséquences pour nos fruits et légumes, alors, pour notre santé ?
Alors en fait, ça dépend parce qu'il y a certains fruits ou légumes qui vont concentrer les polluants et d'autres non. Alors faut dire quand même, je vais essayer de pas être trop alarmiste, c'est que généralement on n'est pas de l'ordre de la pollution qui va être très grave pour votre santé tout de suite. C'est plutôt une contamination ou pour éviter d'être exposé de façon répétée à des petites doses de contaminants, il faut prendre quelques précautions.
D'accord. Il existe un seuil sanitaire pour les métaux et les polluants dans nos sols ?
Alors malheureusement, d'où l'intérêt, si on a envie de faire analyser sa terre, de se faire accompagner. Il y a des laboratoires qui font ça, qui proposent ce type de prestations. Bon, ça coûte un petit peu d'argent, quelques centaines d'euros peut-être, mais ça permet d'être rassuré par exemple sur l'état de sa terre.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on a confirmation que notre terre est contaminée ?
Alors, il faut adapter ces cultures. C'est vrai que, par exemple, pour les métaux lourds, il y a certaines cultures qui sont à éviter parce qu'elles concentrent justement les métaux lourds. C'est le cas, par exemple, du thym, de la menthe, de la rhubarbe, alors qu'il n'y a pas trop de problèmes avec les tomates ou les pommes de terre. Donc voilà, il faut simplement choisir ces végétaux.
D'accord. Il y a certaines plantes qui peuvent aider à décontaminer une parcelle ?
Alors oui, mais par contre ça peut être très long parce que oui, il y a des plantes qui vont capter les polluants, donc dans ces cas-là c'est des plantes qu'on ne consomme pas, mais dans certains cas pour décontaminer un sol, les spécialistes disent qu'il faut parfois 10, 20, 50 ans, donc ça peut être très très long.
Oh, c'est une vie quoi.
Effectivement, il faut de la patience.
Oh, d'accord, bon bah très bien. La culture sur les toits, c'est une bonne idée pour éviter la contamination des sols ?
Alors, pourquoi pas maintenant ? C'est vrai que sur les toits, il y a peut-être une autre question qui se pose. C'est si on est sur les toits en pleine ville, est-ce que les légumes vont être contaminés par l'air des villes ?
Exactement. Et puis moi, j'ai plutôt tendance à me dire que ça monte, non ? Je ne sais pas.
Alors, il y a des études qui ont été faites et c'est important de dire qu'elles ne sont pas vraiment alarmistes. Oui, il peut y avoir certaines concentrations un petit peu plus importantes, mais sans dépasser les seuils sanitaires. Donc, les études qui ont été faites sur ces cultures sur les toits dans les grandes villes sont plutôt rassurantes.
D'accord. Donc, et faire une sorte de culture aussi hors sol, je pense dans des jardinières, c'est mieux aussi ?
Oui, ça, alors ça permet effectivement de contrôler la terre qu'on va mettre. Faut juste faire attention au support qu'on va mettre autour de la terre. C'est vrai qu'on voit par exemple dans certains jardins des gens qui peuvent utiliser des vieux poteaux télécom ou des vieilles traverses de chemin de fer. Là, il faut surtout pas faire ça parce que c'est des bois qui sont généralement imprégnés de produits chimiques. Mais bien donc sûr. Ça, on les utilise pas pour délimiter des carrés potagers.
Eh oui, on n'y pense pas. Et alors, que ce soit en ville ou à la campagne, est-ce qu'on peut avoir une récolte sans résidus de pesticides selon vous ?
Alors, sans aucun résidus de contaminants, c'est sans doute compliqué. Hein. On est dans un environnement où il peut y avoir des résidus un peu partout, pas en quantité importante, avec des traces donc, qui sont faibles dans l'air, dans la terre. Donc, il faut se renseigner sur la qualité de son sol, savoir qu'est-ce qu'il y avait avant sur le terrain où on est. Est-ce qu'il y a eu une activité industrielle par le passé et éventuellement faire analyser cette terre.
Bon, et puis bien nettoyer ses légumes quoi qu'il arrive quoi, c'est ça que vous nous dites aussi quoi.
Oui, bien sûr, hein. ça supprime un certain nombre de soucis potentiels. On rince les légumes, même si on les a fait pousser soi-même, les rince bien, on les épluche, on se lave les mains après avoir jardiné pour éviter de transporter d'éventuelles substances qui seraient présentes dans la terre.
Eh bien, dis donc, moi qui pensais que c'était possible, quand je vous écoute, je me rends compte qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas sorti de l'auberge hein, pour faire du bio. Et on comprend mieux aussi comment certains, parfois agriculteurs, souffrent justement et ont des difficultés à obtenir ce fameux label bio. Parce que ça dépend aussi parfois de la terre du voisin. Donc tout ça, c'est bien compliqué. Je vous remercie en tout cas, Benjamin, d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on va s'occuper du maïs dans un instant avec Grégory Cohen. 60 millions consommateurs et dans les kiosques. Merci beaucoup Benjamin Derrier, à bientôt.
Merci. On s'était mis dans les maïs, t'en souviens-tu mon Anaïs, le ciel était couleur de pomme, elle mâchait le même chewing gum.
On s'est aimé dans les maïs, vous vous souvenez Grégory Cohen ?
Ben alors là, celle-là, je la connais pas du tout, Flavie.
C'est Hubert Félix Thiéphen. Merci beaucoup d'être avec nous, Grégory Cohen. On s'est aimé mais dans les maïs, t'en souviens-tu, mon Anaïs ? Et dites-moi, j'ai l'impression que le maïs, on ne sait jamais quoi en faire, quoi, à part en salade l'été et éventuellement, pour les plus courageux, du pop-corn. Moi, je ne sais pas trop ce qu'on fait du maïs.
Ben vous inquiétez pas, moi j'ai plein d'idées, on peut tout faire avec du maïs, vraiment, on peut faire du granola, de la polenta, des crêpes, des crèmes, de la soca, des soupes, des croquettes, des quiches, c'est un légume vraiment comme...
Tout ça
comme... Ah oui, c'est incroyable, il a un éventail d'exploitation et d'exploration absolument dingue.
Bon, très bien, est-ce qu'il existe différentes variétés de maïs? Parce qu'on voit toujours le même, il est tout jaune.
Ouais, alors il existe énormément de maïs. Si on fait un peu d'histoire, c'est un légume qui est apparu il y a 9000 ans en Amérique centrale. Les civilisations Inca, Maya, Aztec, on avait fait un de leurs aliments principaux. Il est rapporté avec le chocolat, le café et d'autres merveilles par Christophe Colomb à son retour des Amériques, donc 1492-95 à peu près quand il revient. Mais il y a quand même une grosse part de mystère par rapport au maïs parce qu'en fait, il arrive sur notre continent normalement au 15e siècle, mais en fait, il est déjà sur des bas-reliefs, par exemple à la chapelle Roslin, vous savez, celle du Da Vinci Code, au 14e siècle. Ça veut dire 100 ans avant la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Donc il y a un petit mystère à ce niveau-là.
Wow.
Il y a 4000 variétés de maïs. Oh. Il y a des couleurs complètement différentes. Il y a le jaune qu'on connaît évidemment.
Moi, mais
j'ai vu
du
le
rouge
vert.
Parfois. Du vert ?
Ouais, le rouge qui s'appelle le Martian Purple. Le vert qui s'appelle l'Oxacana Green. Ou alors il y en a même un qui est magnifique, il est psychédélique, il est multicolore, le Glass Gem.
Ah mais c'est génial ça, mais pourquoi on les voit jamais?
Parce que c'est en fait des maïs qui sont assez rares. Alors au Mexique on en a une tonne, vraiment avec plein de couleurs différentes. En France on a plus l'habitude d'en cultiver plutôt 3-4 réellement.
Ah mais ils sont très très beaux là, je suis en train de les regarder, de les admirer, c'est absolument magnifique. Dites-moi, maïs doux, maïs dur, c'est quoi la différence?
Ça dépend de l'utilité. Non, pardon.
Allez-y, doux, je vous en prie.
Non, en fait, alors voilà, en fait, c'est très... Oui, alors le maïs doux, c'est celui qui a une forte teneur en sucre, c'est celui qu'on consomme nous, c'est pour les humains. C'est celui que vous allez retrouver généralement dans les boîtes de conserve. Ouais. Le maïs dur, c'est celui qui va être plutôt destiné à la consommation animale.
Ah bon, d'accord, donc on restera sur le doux.
On restera sur le doux, et puis ça nous va bien, non ?
Oui, ça nous va très bien. On se retrouve dans un instant, vous allez nous en dire plus et surtout nous donner des recettes. A tout de suite, Grégory Cohen.
A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Grégory Cohen est chef et il nous parle du maïs ce matin. On parlait de maïs doux, vous voyez qu'on est resté dans l'ambiance quand même, hein, Grégory Cohen.
C'est magnifique, là je suis sursauté.
Alors, le maïs dur, c'est pour les animaux, donc on oublie le maïs dur. On parle du maïs doux avec vous. On a beaucoup entendu parler des OGM, qu'ils soient en boîte ou en épi. Comment est-ce qu'on choisit bien son maïs, mon petit?
Alors, en fait, j'aime bien le mon petit. Alors, en fait, c'est un vaste débat, hein. On est pro ou contre OGM. OGM, ça veut dire... organisme génétiquement modifié. C'est-à-dire qu'on a modifié la nature d'un produit pour le rendre plus apte à la production, au rendement, oui. En lui permettant par exemple de résister aux insectes ou de pousser dans des sols ou des régions naturellement peu favorables. Bref, on l'a rendu différent de sa version originale. Moi, pour ma part, je suis assez à l'ancienne en fait. Je privilégie les cultures sans OGM. Le truc, c'est qu'il n'existe pas vraiment de label au plan national, comme pour le bio, par exemple, où on mettrait sans OGM. Il n'y a pas d'obligation de le mettre.
D'accord.
Mais généralement, les fabricants le mettent comme un argument commercial et on retrouve sur les boîtes, par exemple, de maïs doux, garantie sans OGM.
D'accord.
Moi, c'est vers celui-là que je vais naturellement aller.
Moi aussi, spontanément. Et en épi, comment je le choisis bien?
En épi, il faut qu'il soit dur pour le coup. Mmh. Il faut qu'il ait une belle couleur vive. Il faut qu'il ait encore ses feuilles autour de lui, que ses feuilles soient aussi vertes et qu'il n'ait pas encore séché.
D'accord.
C'est vraiment le meilleur moyen de le reconnaître. On peut le conserver après pendant à peu près une semaine avec ses feuilles dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Okay.
Et c'est parfait.
Et on le trouve aussi en farine?
Ouais,
c'est bien ça, la farine de maïs?
Farine de maïs, c'est génial. Pour ceux qui ont par exemple des intolérances au gluten, la farine, c'est super. Il y a une recette moi que je peux vous proposer de faire. C'est une recette qui nous vient directement du Mexique. Mm-hmm. C'est les tortillas. Les tortillas avec la farine, un mélange de farine de blé et de farine de maïs.
Alors, comment qu'on fait?
Alors, on y va. C'est super simple. C'est 200 ml d'eau. 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 cuillères à café de sel, 200 g de farine de maïs et 200 g de farine de blé. On mélange les deux farines, puis on met l'eau, le sel, l'huile, on le travaille comme une pâte à pain. On laisse reposer pendant 45 minutes et ensuite on découpe en 12 petits pâtons. Des petits pâtons, c'est trop mignon.
Ouais.
Pour faire donc 12 tortillas, on les étale en crêpes très fines. Et ensuite, on les cuit à feu moyen sur une poêle sans matière grasse puisqu'il y a déjà de l'huile dans notre pâte. Et dès qu'elles se colorent, elles sont cuites. Pour les garnir, alors là, c'est libre à vous de faire fonctionner votre imagination avec du poulet, de la viande hachée ou même du poisson. Moi, je les fais revenir avec des oignons, des poivrons que j'assaisonne avec un peu de paprika fumé, de l'ail, du cumin et de la coriandre en poudre, un peu de piment vert. J'ajoute ensuite le poulet, je laisse colorer, je mets un verre d'eau pour faire la sauce et je garnis alors mes tortillas. Et c'est un régal, c'est devenu une tradition familiale du dimanche soir.
Ah bah écoutez, on viendra dimanche, alors on est ravis, hein. Rendez-vous demain pour les tortillas. Non mais c'est très très simple à faire en fait, voilà, je me rends compte que parfois il y a des ingrédients, des fruits ou des légumes qui nous impressionnent un peu et on a peur de ne pas savoir faire alors qu'en réalité il y a plein d'idées. C'est calorique le maïs ou c'est bon pour notre petit régime estival?
Bah ouais, on était bien partis, on l'aimait bien ce petit maïs.
Ah bah
en
oui, est-ce que nos fesses lui disent merci ou pas?
Alors, ça dépend. Moi, personnellement, je trouve que des fesses charnues, c'est beaucoup plus sympa.
Donc
elles
calorique.
Pourront dire merci. C'est vachement calorique. C'est 103 kilocalories pour 100 grammes. C'est pas vraiment les meilleurs alliés de notre silhouette. Il y a du sucre aussi. Mais en même temps, le maïs, c'est un légume céréal riche en vitamines, minéraux, phosphore, fer, zinc, magnésium, vitamine B. Et il y a aussi de l'antioxydant. Donc, c'est quand même pas mal. Allez.
Non mais alors donc ça veut dire que la salade typique maïs thon avec un peu de mayonnaise et tout là pour le coup c'est
non c'est pas
du tout ce qu'il faut faire
plaisir.
L'été quoi voilà
c'est
ça
la salade
il faut juste
plaisir,
savoir
mais c'est
quoi
pas,
bon très
mais
bien
c'est pas la salade régime
bon
non.
Si j'achète un bel épi comment je le cuisine ensuite?
Alors il y a plusieurs techniques en fait. On le blanchit puis on le passe sous le grill du four. Et donc là on va avoir un épi caramélisé un petit peu grillé. Ou alors on le fait bouillir dans de l'eau bouillante salée pendant environ 10 minutes, il va être fondant à souhait.
D'accord.
Ou alors dernière technique, au barbecue, ça va être bientôt être le moment, on le met tel quel, à l'américaine. Et puis après ensuite, une fois qu'il est cuit, un petit agrément, on va faire fondre un petit peu de beurre salé avec une pointe de paprika. Oh. Et puis on va napper notre maïs et c'est un régal absolu.
Et on s'en met plein les dents et on fait des grands sourires, mais on s'en fout parce que c'est tellement
ça, et c'est très drôle.
Bon. Quoi. Et c'est vraiment délicieux. Avec quels aliments il se marie aussi à perfection le maïs? Parce que bon, je pense évidemment toujours au thon, hein, c'est le truc classique. Mais avec quoi?
Pour la petite salade, ouais, effectivement. Ouais. Mais alors on peut faire un ceviche avec donc de poissons crus, on peut faire de la dorade en ceviche avec des grains de maïs. Il se marie avec des légumes aussi assez facilement. Riz maïs, ça fonctionne très très bien. Les viandes, en fait, réellement, c'est le légume tout terrain. Il est vraiment canon pour tout.
Ah, c'est génial. Et qu'est-ce que je fais avec une boîte de maïs qui traîne dans mon placard? Parce qu'on en a toujours de ça.
Ouais. Alors, il y a évidemment la recette simplissime, classique qu'on connaît. C'est notre salade de riz, maïs, thon, ciboulette, avec une pointe de mayonnaise. Et ça, c'est un best-seller. Ça fonctionne, mais de folie. Moi, j'aime bien les mettre dans une poêle avec une pointe de beurre salé et laisser le beurre fondre. Et puis, laisser le maïs rendre son sucre. Il va naturellement caraméliser. Et ça va donner un espèce de mélange entre du croustillant, du fondant, du juteux et cette espèce de caramel naturel qui va être créé. Ça, c'est un de mes accompagnements préférés.
D'accord, ok. Le pop-corn, c'est difficile à faire ou pas? Il faut une machine spéciale?
Non, il ne faut pas une machine spéciale, mais il y a ce qu'on appelle la malédiction du pop-corn. Moi, je suis par exemple un type qui... je suis totalement maudit sur le pop-corn, c'est-à-dire que je réussis à faire pas mal de plats, hein, c'est un peu mon métier.
Mais heureusement.
Je le foire à chaque fois. Et pourtant, en théorie, c'est ultra simple. Il faut juste partir d'un principe, c'est qu'il nous faut du maïs à pop-corn.
Ah,
donc tous les grains de maïs n'éclatent pas à la chaleur. Il y a un maïs qui est super, le nom est super mignon, c'est le butterfly, le maïs papillon.
Oh, ouais.
C'est un super candidat au pop-corn. Il va normalement nous faire un superbe pop Sheba Woom qui va résulter après s'être éclaté dans notre poêle avec une belle couleur blanche. Alors, pour faire normalement le pop-corn, on fait chauffer une poêle avec un tout petit peu de matière grasse. On y met les grains de maïs, on n'oublie pas de couvrir...
Parce que sinon...
que ça va partir dans tous les sens. Et après, on met du sucre, du beurre, du sel ou alors du caramel. Et c'est
aussi simple que ça?
Il n'y a rien à faire en réalité.
Et alors que vous n'y arrivez jamais?
Alors que moi, j'y arrive pas. Et donc, du coup, c'est ma fille de 7 ans qui fait le pop-corn à ma place.
Eh ben, c'est très bien. Et vous attendez tranquille. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, on viendra tous dîner demain soir. On l'aura bien compris, puisque ça, c'est
avec
votre
plaisir.
Petit péché mignon du dimanche. Ensuite, on écoutera RTL le dimanche soir en mangeant du pop-corn. Merci beaucoup, Grégory Cohen, pour toutes
Merci
ces informations. Dites-moi, vous êtes donc parrain de la Nutella Academy. Alors
ouais.
Attention, félicitations. Et puis on a hâte de fêter l'ouverture du restaurant Le Père Joseph à Rueil-Malmaison. C'est pour quand?
On a pris un petit peu de marge parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment.
Oui.
Donc ce sera entre septembre et décembre.
Eh bien, on sera de la partie. Merci beaucoup. Et évidemment, votre page Instagram pour retrouver toutes vos recettes, Grégory Cohen Off. Merci Grégory Cohen. Et qu'est-ce que vous aimez?
Bah des bisous.
Eh oui, eh bah écoutez, pas cette semaine.
Comment
te dire adieu? On a décidé de changer, voilà.
Eh bah c'est sympa ça, c'est un message.
Oui, mais... Non, à la prochaine Grégory Cohen. Merci beaucoup à vous. À bientôt.
Bisous quand même.
Bisous quand même. Nous voilà bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez le replay de l'émission sur l'appli RTL ou sur Radio Player France et les recettes sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, RTL vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL évidemment. Je vous embrasse.